Je me suis dit, ben, en fait, c'est un lieu pour y mettre des rosiers. Il y en a déjà naturellement présents, plein d'espèces différentes. Donc, je vais partir sur ça.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Pour ce deuxième épisode des Mains Libres, on t'emmène dans le Vaucluse chez Sylvie. Elle cultive une collection de rosiers anciens dont les portes ont ouvertes pour la première fois en 2022. Sylvie nous raconte son envie d'agriculture et sa reconversion progressive depuis son métier de professeur. On lui a posé plein de questions sur ses rosiers, leur nom, leurs spécificités, et on espère que tu vas te régaler en écoutant ses explications.
Bonjour Sylvie, merci de nous accueillir dans cette belle maison. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer la roseraie en quelques mots?
Oui, alors je m'appelle Sylvie Brun, j'ai 47 ans et j'ai mis en place une roseraie qui réunit une collection de rosiers anciens et qui est associée à une pépinière de rosiers anciens, et ça fait maintenant 7 ans que je travaille à la création de cette chose-là, et c'est l'année où le jardin va pouvoir ouvrir au public pour la première fois.
Du coup, au niveau historique, comment t'en es arrivé à avoir cette idée? Ça a été quoi un peu les étapes pendant ces 7 ans, et même avant en fait l'étape du le cheminement de pourquoi t'as une roseraie?
Ouais, le démarrage du projet, en fait, il remonte à plus longtemps que les 7 ans, hein, ouais. Forcément un peu avant. Et ça va être, on va dire, c'est des préoccupations écologiques qui m'ont amené à me donner envie d'acquérir de la terre agricole. Et sur cette terre agricole, d'y cultiver des choses qui seraient cultivées sans pesticides, sans engrais chimiques et sans toutes ces choses-là. Donc c'est un peu ça qui a guidé le tout début, le moment où j'ai acheté de la terre agricole. Ensuite, le fait que ce soit devenu une roseraie, ça c'est, on va dire que c'est la rencontre de trois choses en même temps. D'abord du lieu, parce que c'est 1,6 hectare de terre agricole que j'ai acheté au pied du Mont Ventoux. Et sur cet espace, il y a des rosiers sauvages, parce que c'était une friche. Ça faisait 45 ans que la terre n'avait plus été cultivée. Et donc sur cette friche, il y avait beaucoup de broussailles. Et dans les broussailles, il y avait des rosiers sauvages, qu'on appelle des rosiers botaniques. Et ces rosiers botaniques, ils étaient présents en plus de 3 variétés différentes sur l'espace. Donc il y avait une diversité de rosiers déjà sur le lieu qui était assez exceptionnelle, parce que on peut dire que même sur 3000 m², on trouve les 3 types de rosiers différents. Donc c'était déjà quelque chose d'un peu spécial. Et puis ça s'est ajouté à une émotion olfactive, parce que il y a plusieurs années, j'ai été en Italie, j'ai visité les jardins de Boboli, et quand on visite ces jardins, tout en haut des jardins, il y a une roseraie. Et je suis arrivée sur cet espace au moment où les fleurs n'étaient presque plus visibles, parce qu'elles étaient en train de défleurir. Et en fait, en entrant dans le lieu, il y a une odeur de rose comme ça qui est venu jusqu'à moi, et ce parfum, ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai après visité le lieu où il y a la roseraie aujourd'hui, ces rosiers botaniques qui sont très vieux, puisque la terre est plus cultivée depuis 45 ans, ils dégagent le même type de parfum dans l'air, et tout ça c'est mêlé pour arriver à une roseraie. J'ai dit 3 choses, dans la troisième, c'est aussi des considérations plus pratiques qui font que Au moment où je me suis lancée dans ce projet, j'étais maman d'enfants qui n'étaient encore pas trop grands. Et les périodes de travail dans la roseraie les plus intenses sont au printemps et à l'automne. Et donc, ça me permettait de pouvoir aussi conserver le temps de l'été avec mes enfants et de profiter des vacances avec eux.
Quand tu es arrivée sur le terrain et que tu as senti les rosiers, tu as imaginé direct...
Et je me suis dit,
là, c'est bon, il faut planter des rosiers, il faut en mettre d'autres et que l'impression soit encore plus intense.
C'est ça. C'est vraiment ça qui a un peu, qui a un peu guidé. Je me suis dit, en fait, c'est un lieu pour y mettre des rosiers. Il y en a déjà naturellement présents, plein d'espèces différentes. Donc, je vais partir sur ça.
Du coup, ça me fait passer à un thème un peu qui va à la suite, c'est que tu as une double activité. Jusqu'à la fin de cette année et parler un peu de cette transition-là, de comment t'es passée d'une activité à l'autre avec toute cette partie de transition.
Pour moi, la transition entre mes deux activités, donc la première activité que j'ai pour l'instant toujours, c'est que je suis professeure de physique-chimie dans un lycée. Le passage, il s'est fait un peu tout naturellement, dans le sens où c'est mon travail avec les lycéens qui m'a... On va dire qu'avec les lycéens, j'ai développé mes préoccupations écologiques, puisque depuis même déjà avant, mais au moment de la COP21, dans mon lycée, j'ai pu créer avec d'autres professeurs intéressés une sorte de club environnement. Et donc, j'ai enseigné à mes élèves la problématique du réchauffement climatique depuis maintenant, ça fait de nombreuses années, alors que ça n'était pas encore dans nos programmes de lycée. Et cette préoccupation-là, du coup, j'ai pu la transmettre à mes élèves. Et ça m'a aussi amené à réfléchir à comment je pouvais, dans ma vie de tous les jours, correspondre ou en tout cas diriger ma vie, enfin la mettre en place pour qu'elle soit la plus respectueuse de l'environnement et que je puisse donner à mes enfants et aux élèves que j'avais devant moi un avenir sur la Terre. Et donc, c'était une sorte de devoir de cohérence parce que je ne me sentais pas de pointer ces problèmes-là devant des adolescents sans de mon côté avoir une espèce d'exemplarité. Ça me semblait pas, enfin, ça me semblait malhonnête en fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller au lycée à vélo. Je me suis équipée avec un vélo performant et je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis, quand j'ai ensuite eu la terre et la roseraie, ça a été facile de glisser doucement. J'ai travaillé à temps partiel, ça m'a permis de m'occuper de la roseraie, tout en continuant le travail de sensibilisation avec mes élèves. Et donc, les choses se sont un peu complétées et au départ, j'en ai aussi souvent parlé en classe du choix que je faisais de devenir agricultrice parce que ça me semblait un choix qui était compatible avec la crise climatique et les problèmes environnementaux. Donc voilà, la transition elle s'est faite un peu comme ça.
Donc tes élèves sont tous au courant, ils vont venir à l'inauguration.
Je ne sais pas s'ils viendront à l'inauguration, mais oui, ils sont au courant. Ils sont au courant que je vais partir. J'ai pas toujours les élèves que j'ai cette année. J'ai pas toujours détaillé parce que j'aurai la réponse de mon départ qu'au mois de mai et je voulais pas créer des fausses, ou des déceptions. Plutôt dans le cas de mes élèves, ils sont assez tristes. Si je dis je vais peut-être partir, ils sont voilà. Et je voulais pas dire des choses qui sont pas encore abouties.
Moi, je voulais te poser une question parce que. Du coup, tu te lances pour faire une roseraie, mais je suppose que tu ne peux pas le faire sans connaissance, sans formation. Est-ce que du coup, tu t'es formée par rapport à ça ou est-ce que tu avais déjà des capacités dans le milieu ?
Alors moi, je n'ai pas de formation agricole. Par contre, comme je suis prof de physique-chimie, j'ai une formation scientifique. Et donc, une formation scientifique, ça donne plein de bases pour aborder les problématiques agricoles. Et après... J'ai fait quelques formations au démarrage sur des petites formations en agronomie, des formations qui pouvaient m'intéresser sur un certain nombre de sujets où je pensais avoir besoin d'un peu plus de bagages techniques. Et après, le reste de la formation, je vais dire que c'est le temps, en fait. Moi, je me suis installée sur une longue, longue période, mais ça m'a donné le temps de rater, d'analyser pourquoi c'était raté, de faire... J'ai pas mal travaillé sur le bouturage, en fait. J'ai testé plein de façons de faire et je l'ai fait à chaque fois en essayant d'avoir une démarche scientifique, de faire varier qu'un seul paramètre et puis de voir ensuite qu'est-ce qui avait le mieux fonctionné, etc. Donc, c'est ce travail-là qui s'est fait sur plusieurs années qui m'a apporté, c'est l'expérience, en fait. Voilà. Au démarrage, j'ai aussi été quand même un petit peu... interroger les gens qui pouvaient faire ça autour de moi, voir s'il y avait des petites choses à transmettre. Et puis après, moi, j'aime bien aussi apprendre les choses par la lecture. Donc j'ai pas mal lu ce que je pouvais trouver sur différents sujets. Pendant un temps, j'ai un peu hanté les bancs de la bibliothèque du lycée agricole de mon secteur, ouais. Où j'ai pu aller chercher des livres techniques, des choses qui m'interpellaient. Et voilà comment je me suis lancée, en fait, avec pas beaucoup de bagages agricoles.
Oui, mais bon, après, avec 7 ans d'expérience aussi, forcément...
Oui, c'est ça, c'est qu'on arrive à un moment un peu clé. Au bout des 7 ans de mise en place du jardin, tu vas ouvrir bientôt. Donc, on a l'impression que tu te lances, et en même temps, ça fait déjà 7 ans que c'est en place, on va dire. Mais... Du coup, comment tu t'es organisée? Tu t'étais donné une date butoir pour l'ouverture? Ça s'est passé comment? Parce que du coup, 7 ans, c'est plutôt on verra quand je serai prête. Ou alors, tu t'es dit, je me donne tant d'années pour m'organiser.
Oui, quand j'ai démarré, je me suis dit, comme je ne voulais pas bousculer toute la vie de ma famille, que je ne voulais pas que ce soit un changement de vie trop brusque et trop rapide, je me suis donné 10 ans, en fait. Quand j'ai acheté, je me suis dit, dans 10 ans, il faudra que le projet que je mets en place ici, il tourne. Et après, il y a eu les premières années où j'ai commencé à planter tout de suite. En fait, il y avait quand même un ratage parce que je connaissais pas bien mon terrain. J'ai planté à l'endroit qui était certainement le pire. J'ai perdu plein de rosiers. Et puis, c'est comme ça. Enfin, du coup, j'ai appris aussi. Et... Après, j'ai planté peu au début, hein. J'ai planté une trentaine de rosiers, donc le risque n'était pas non plus trop important. Puis après, j'ai appris à connaître le terrain, j'ai appris à voir si physiquement je serais capable de mener cette activité-là, si ça allait me plaire aussi. Donc il y a eu toute cette phase-là. Et puis après, il y a eu la phase où c'est parti, dans le sens où j'ai commencé à dessiner les plans du jardin, parce que j'étais sur la parcelle déjà depuis longtemps, donc je connaissais mieux le lieu. Et en même temps de cette chose-là, j'ai démarré le bouturage avec toutes les différentes techniques que je pouvais mettre en œuvre, en tout cas les différents tests que j'ai faits. Et on va dire, il y a 4-5 ans, je me suis donné comme un calendrier en me disant que 2022, ça devrait, au vu des plantations que j'avais déjà faites, du nombre d'années qui restaient, pour que les rosiers soient qu'ils aient un tout petit peu déjà grandi, j'ai fixé cette date. Et puis après, j'ai mis en œuvre les choses pour y être, voilà. Alors.
Et du coup, je vais rebondir directement là-dessus, parce que moi, j'avais une grosse question sur la pérennité économique. En fait, on n'en a pas trop parlé quand on bossait au jardin ensemble et tout. Et je me dis, en fait, t'es la première personne qu'on rencontre là pour les podcasts qui a pas, le revenu ne va pas reposer que sur la production agricole. T'as la pépinière, donc tu produis des rosiers que tu vas vendre à des gens, etc. Mais j'imagine que c'est pas le plus gros revenu, je sais pas, faut que tu me dises. Et comment t'envisages, en fait, tu vas faire visiter le lieu, l'entrée va être payante. Comment tu te projettes là-dedans? Parce que c'est hyper difficile de savoir combien de personnes tu vas avoir, comment ça va se passer, etc. Est-ce qu'il va y avoir un engouement ou pas? Et voilà, je voulais savoir un peu ce que tu penses par rapport à ça.
Ouais, l'étude économique que j'ai monté uniquement sur la production en pépinière, en fait. Et pour avoir une activité qui soit, qui me convienne sur le plan économique, il faut que je produise 2500 rosiers par an. C'est, voilà, si je n'ai que la pépinière. Parce qu'au début, quand Au début, j'ai pas trop mesuré comment le jardin, ça allait intervenir sur le plan économique. Et puis, en fait, j'ai été rencontrer le jardinier de l'abbaye de Val-Sainte. Ils ont un jardin, ils avaient une pépinière, puis ils ont aussi un petit peu, ils avaient aussi deux gîtes à l'époque. Et quand j'ai été le rencontrer, il y avait le jardin qui était ouvert, qui est quand même pas mal ouvert sur l'année, plus la pépinière, plus lui, il est aussi jardinier à la radio, et les gîtes. En fait, il m'a expliqué qu'il vivait à 7 familles sur cette activité-là. Et de là, je me suis dit que moi, avec une pépinière et un jardin, je devrais quand même arriver à vivre toute seule dessus. Voilà, donc au final, ça va. Le jardin, c'est effectivement un inconnu. Donc pour l'instant, dans mon planning, j'ai pas fait de prévisions vraiment. J'ai fait des prévisions, mais plutôt à minima. Et je pense que l'activité jardin, elle va venir un peu en complément de la pépinière, et ça me permettra de devoir produire moins de rosiers tous les ans et d'avoir les deux qui se complètent.
J'y ai pensé en fait en posant la question, mais les rosiers du jardin, en fait, c'est ta source de matériel végétal pour la pépinière. Oui. T'es quand même si tu l'ouvrais pas au public, tu serais obligée d'avoir tous ces rosiers et de les entretenir.
Oui, oui, de toute façon, voilà, je pouvais prendre les rosiers, c'est mes pieds mères, comme j'ai besoin de ces pieds mères pour bouturer. Je pouvais les prendre et les planter tous à ligne dans un champ, et puis voilà, ça aurait été une activité uniquement pépinière. Mais c'est vrai que je me suis dit que si je les plantais dans un jardin, il y avait aussi une partie avec plus de créativité pour moi, et ça, c'est quand même important dans ma démarche. Enfin, moi, j'ai besoin de choses un peu créatives, et en même temps, ça pourrait être plus partagé. Et c'est aussi un outil pédagogique qui va avec la pépinière, parce que quand quelqu'un vient pour acheter un rosier en pépinière, c'est parfois pas très facile selon la saison où on achète, surtout nous, dans le sud, là, c'est bien de planter à l'automne, mais à l'automne, les rosiers sont plus en fleurs, donc c'est pas toujours simple. Donc, ça permet aussi aux gens de venir voir les rosiers dans le jardin, dont ils sont mis en scène, on voit quel est leur port, comment... Voilà, quand on achète un rosier très jeune, on ne sait pas comment il va se développer, est-ce que le port va être plutôt retombant, est-ce qu'il va faire plutôt une boule, est-ce qu'il va être très dressé. Donc ça donne vraiment la possibilité aux personnes de voir comment sont les rosiers, comment sont les fleurs, est-ce qu'elles sentent, est-ce que la couleur elle est comme ceci, comme cela. Donc c'est un outil, moi je trouve, qui complète bien la partie pépinière.
Et oui, comme tu dis, dans la pépinière, les rosiers, c'est des bâtons, c'est toi qui l'as dit. Et c'est vrai que l'autre fois, on est venu te voir au marché et tu avais mis les fleurs des rosiers, et ça apporte énormément pour savoir, parce que en plus, tu produis des rosiers anciens que peu de gens connaissent. Du coup, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un rosier ancien, parce que du coup, on n'a pas expliqué.
Oui, je vais expliquer ce que c'est un rosier ancien. Non, effectivement, dans la pépinière, je reproduis en fait un patrimoine végétal, parce que ce qu'on appelle les rosiers anciens, les roses anciennes, elles datent... alors, tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord sur la date. Alors, je vais donner en gros l'histoire. On date les rosiers anciens avant 1867. En 1867 apparaît le premier hybride de thé, je crois. C'est un rosier qui s'appelle la France. Et à partir de ce rosier-là, on a basculé sur les roses modernes. Et en fait, les rosiers anciens donc, datent d'avant cette rose-là. Et ce sont des rosiers qui sont assez peu hybridés par rapport aux rosiers modernes. Et le fait qu'ils soient assez peu hybridés, ça permet de trouver dans ces rosiers-là des caractéristiques communes à la famille. Donc on va avoir un certain nombre de groupes de rosiers anciens, on aura les roses de Damas, les roses sans feuilles, les roses de Chine par exemple, et ces rosiers-là, ils ont tous des caractères en commun que l'on peut voir sur la plante, alors que quand on arrive à des rosiers beaucoup plus hybridés, que sont les rosiers modernes, on n'arrive plus à distinguer ces différents caractères, donc c'est essentiellement la différence. Donc après, au niveau des dates, les rosieristes ont continué à créer des roses anciennes jusqu'autour de 1900, parce qu'ils ont continué quand même, en même temps des roses modernes qui apparaissaient, à hybrider des roses de Damas entre elles, des choses comme ça. Donc on peut donner une date autour de 1900 qui est un petit peu plus large.
Mais du coup, ça fait que dans la roseraie, tout est différent. Les rosiers, ils ont tous une tête différente.
Oui.
Et même, en fait, on a participé à mettre les petits panneaux des noms des roses. Et j'ai trouvé ça superbe parce qu'il y a des endroits où il y a une arche avec une ligne de rosiers. Et je me suis dit, ah, il y a une ligne avec tous les mêmes rosiers. Et en fait, pas du tout. On a mis les panneaux, ils sont tous différents. Et je pense que, bon, là, on voit pas très bien parce que c'est encore la fin de l'hiver. Mais quand c'est en fleurs, ça doit être très varié. T'as plein de couleurs, plein de formes. Et du coup, tu les as un peu organisés. Pour qu'ils soient regroupés en couleurs, je crois, mais je ne suis pas sûre.
Oui, il y a des massifs où les couleurs sont plus mélangées, mais c'est vrai que j'ai un peu regroupé par couleur. Je n'ai pas fait un regroupement, par exemple, par famille, parce que c'était pas... Enfin, j'avais envie que ce soit un peu paysager, donc je voulais jouer sur des rosiers qui sont remontants, d'autres qui sont non remontants. Les remontants fleurissent plusieurs fois, les non remontants qu'une seule fois, donc ça me demandait de forcément mélanger les rosiers par famille. Et ensuite, oui, j'ai fait un peu... souvent, j'ai fait des zones un peu par couleur, finalement. Voilà, voilà, il y a un ou deux massifs où c'est plus mélangé, mais c'est un petit peu fait comme ça. Et je sais plus ce que je voulais... Oui, on parlait de la diversité. Donc, effectivement, il y a, chez les rosiers anciens, une grande diversité de... Alors, on va avoir la forme de la fleur qui va être différente. Il y en a qui ont plein de pétales, il y en a qui ont un peu des pétales, on appelle ça les semi-doubles. Il y en a qui sont simples, comme des églantines. Il y a des simples très petites et des simples très grosses. C'est vraiment très varié. Ça va être sur les fleurs. On va avoir des fleurs où on voit le cœur, avec des étamines très présentes, des fleurs où elles sont toutes fermées, où on n'a pas accès au cœur de la rose. Il va y avoir des rosiers qui ont des parfums aussi qui sont différents. On va avoir des rosiers qui ont des parfums plus qui tournent autour du musc, des parfums plus légers ou des parfums très, très prenants comme ceux des roses de Damas. Donc il y a toute cette diversité de parfums. On a aussi des feuillages odorants dans les rosiers anciens. Il y a des feuillages qui ont des odeurs. Après, on a une diversité dans les bois. On a des couleurs de branches qui sont très différentes. Il y a des rosiers qui ont des bois rouges, des rosiers qui ont des bois plus verts. Enfin, ça, c'est aussi très varié. Les couleurs des feuilles, il y a des rosiers qui ont des feuilles vert sombre, d'autres vert très clair, des petites feuilles. Il y a des rosiers qui ont des feuilles qui ressemblent à la pimprenelle, qui constitue la famille des rosiers pimpinellifolia, qui vient de pimprenelle, parce que la feuille, elle est toute petite et très découpée comme une feuille de pimprenelle. Après, on a aussi des diversités d'épines. On a des rosiers qui ont des épines. Il y en a qui n'ont pas d'épines, il y en a qui ont des grosses épines, il y en a qui ont des toutes petites épines, il y en a qui ont ce qu'on appelle des acicules. C'est comme des petits... C'est presque des petits poils, en fait. Voilà, donc c'est très, 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 très divers.
Je sais pas, comment tu t'es retrouvée avec tout ça à dire tu cherches des nouvelles variétés, en fait, où tu les trouves?
J'ai cherché des familles qui m'intéressaient d'abord parce que je voulais réunir une collection qui allait s'adapter aux terres calcaires dans lesquelles je me trouve sans trop être impactée par la difficulté que représentent nos terres calcaires, et aussi des rosiers qui allaient pouvoir résister aux températures importantes que l'on a déjà maintenant et qu'on va en voir encore dans le futur. Donc j'ai d'abord cherché des familles qui m'intéressaient, et donc à partir de là, ensuite, j'ai cherché chez les différents pépiniéristes de roses anciennes les rosiers que je voulais mettre dans cette collection venant de différentes familles. Et en cherchant les différentes familles, c'est là qu'on trouve un peu les caractères de chaque type de rosier, de chaque type de famille. Donc c'est par là que ça s'est fait.
Et en parlant de toute cette diversité, tu nous as dit que chaque nom de rosier avait une histoire derrière. Est-ce que tu en as une que tu préfères? Est-ce que tu pourrais nous la raconter?
Comme ça, oui, il y a des... Ben si, il y en a plusieurs qui ont des belles histoires. Par exemple, j'aime bien le rosier qui s'appelle Omar Khayyam. Omar Khayyam, c'est un poète perse. Et en fait, ce rosier s'appelle Omar Khayyam parce que c'est un rosier qu'on a retrouvé sur la tombe du poète perse. Mais c'est pas forcément le... À chaque fois, les histoires, il faut que je les remette en tête. Elles sont, voilà, je cherche, je suis en fait actuellement où j'ai un petit peu plus de temps parce que là, la collection est réunie. Je suis à la recherche de toutes ces histoires. Donc, en fait, hop, je les attrape, je les note et puis je les oublie. Puis il faut que j'y revienne. Voilà. Mais celui-là, il avait une belle histoire parce que c'est, C'est sûr que c'est celui qui est sur une tombe, mais c'est en lien aussi avec le traducteur d'Omar Khayyam. Donc, est-ce que voilà, il y a un lien entre son traducteur en anglais et le poète persan et le rosier. Donc, du coup, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire de un peu de transmission, enfin de comment on s'est approprié la poésie d'une personne. Voilà. Après, il y a celui qui s'appelle Le Rire-Nier. Donc là, on n'a pas l'histoire, mais on sait que c'est pas son nom d'origine, parce que son nom d'origine, c'est quelque chose comme rosier à odeur de punaise, ou quelque chose comme ça. Et en fait, alors moi, j'imagine que peut-être ce nom-là faisait rire un peu les gens à l'évocation du nom, et que ça a fini par changer le nom du rosier, il est devenu Le Rire-Nier. Voilà. Après, il y a Henri Martin. Henri Martin, c'est un des historiens de la République, donc c'est des personnages comme ça, historiques, qui sont mis à l'honneur, enfin, ou en tout cas, lui, c'est un historien, donc il a œuvré pour l'histoire. Après, comme ça, là, j'en ai pas tout de suite qui me viennent en tête, mais...
C'est pas grave, mais c'est intéressant de voir que bah, y a une grande diversité et qu'au-delà de l'esthétique, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces rosiers, leurs noms, etc. Et c'est un truc infini que tu pourrais raconter aux visiteurs, en fait.
Moi, je voulais revenir sur un point. Quand tu as décidé de créer la roseraie, on sait que ouais, ton mari, il est artisan. Il travaille beaucoup le bois ou le fer. Et je me demandais, est-ce que ça a été aussi... tu lui as demandé, est-ce que ça te plaisait comme projet ? Est-ce que tu penses qu'on peut s'accompagner ? Est-ce que ça peut être deux métiers qui peuvent du coup se compléter ?
Ou alors, est-ce que c'était un projet commun ? Parce que parfois, vous dites que vous êtes tous les deux sur la roseraie.
Oui, au départ, oui, c'était mon envie. Mais c'est quand même un projet familial. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancée tant que je n'avais pas l'accord de ma famille. Donc, il fallait l'accord de John et aussi son appui technique, parce qu'il y a plein de choses que moi, je ne pouvais pas, que je ne peux pas mener parce que ou je n'ai pas la compétence ou parfois je n'ai pas la force physique. Donc, c'était indispensable que ce projet, on le mène à deux. C'est pour ça qu'il est associé sur mon site, que je mets les quatre mains du jardin, parce que ce serait malhonnête de dire que j'ai tout fait toute seule, alors que j'ai vraiment eu besoin de lui. Après, c'est la même chose pour les enfants, en fait. Il fallait... je voulais pas me lancer dans cette chose-là sans que ils aient quand même... un peu d'envie d'aller sur ce lieu et tout ça. Et ça s'est fait petit à petit, en fait. Maintenant, ils sont... Quand on passe une partie de l'été là-bas, ils sont... Pour ma fille, par exemple, c'est vraiment la fête d'arriver au jardin. Là, dès le mois de mars, elle dit, ça y est, maintenant, ma chambre, j'en ai marre, j'ai envie d'aller au jardin, d'aller camper au jardin. Ça... Voilà, donc... Ils se sont attachés au lieu et à ce qu'on pouvait y faire et à comment... Oui, on pourrait dire habiter. Voilà, donc c'est pas moi toute seule qui ai emmené tout le monde. C'était mon envie, mais elle s'est transformée en envie familiale. Donc, ouais, on l'a prévu pour que... C'est pour ça que j'ai mis du temps à m'installer aussi, parce que je voulais pas que ce soit trop brusqué, que ça change la vie de tout le monde trop rapidement. Après... John, il a des compétences techniques. À l'époque où je me suis lancée dans la roseraie, il y a 7 ans, il n'était pas encore artisan. Et s'est posé la question de savoir si on travaillait tous les deux sur la roseraie tout le temps ou pas. Et après, ça, c'est des choix. Enfin, lui, il a des compétences techniques sur la roseraie. Maintenant, au niveau technique, il va y avoir moins d'interventions une fois que tout est mis en place. Il y a des choses à faire régulièrement, mais il n'y a pas de... Sur le plan technique, il va y avoir moins de création, de choses comme ça. Et donc, c'était bien que lui puisse aussi avoir une activité qui corresponde à ses goûts. Donc, il intervient toujours sur la roseraie en appui technique. Mais après, il a développé son activité dans l'artisanat où il peut faire des choses qui correspondent à ses désirs à lui. Et moi, je trouvais on était d'accord tous les deux pour dire que c'était plus riche, en fait.
Tu as parlé tout à l'heure de l'organisation à l'année. dans le choix de pourquoi tu faisais une roseraie, etc. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que tu fais, les grandes étapes au cours de l'année, pour qu'on voit un peu comment ça va?
Ouais. Ben, on peut démarrer par l'été, parce que l'été, c'est là qu'il y a le moins de choses à faire. En gros, ben, l'été, il faut vérifier l'arrosage. Donc, que ce soit dans la roseraie ou dans la pépinière. Pour l'instant, les rosiers sont jeunes, donc ils sont encore à l'arrosage. Après, dans la roseraie, quand les rosiers seront plus grands, un grand nombre d'entre eux n'auront plus besoin d'arrosage et pourront vivre et fleurir sans eau. Mais pour l'instant, quand ils sont jeunes et que les températures chez nous, elles avoisinent régulièrement les 40 degrés, il faut être là pour être sûr qu'ils aient de l'eau et que, voilà, que je ne les perde pas. Et dans la pépinière où c'est en pot, c'est encore plus présent. Donc ça, c'est l'été. Il y a essentiellement la vérification de l'arrosage. Et arrosage des plantes méditerranéennes, puisque accolé à la roseraie, enfin mêlé au rosier, on va dire, il y a des plantes méditerranéennes qui complètent le jardin. Donc celles-là, elles sont arrosées la première année toutes les 3 semaines et après, elles ne sont plus du tout arrosées. Ça, c'est l'été. Après, à l'automne, je bouture. Donc, il y a toute la préparation des pots. Alors après, dans la fin de l'été, il y a la préparation du terreau. Bon, là, il y a une journée d'assemblage. Je fabrique mon propre terreau. Donc, une journée où on s'occupe de mettre le tas de terreau en route, en fait. Et après, au mois de septembre, je récupère le terreau de l'année d'avant. Je le crible, en fait, j'enlève les grosses pierres, etc. Et je fais mes pots dans lesquels je vais bouturer. Une fois que j'ai fait ça, j'attends que les températures soient passées en dessous de 30 degrés, parce qu'au-dessus, ben, pour les boutures, c'est trop chaud et donc on a plus de pertes. Et donc quand on passe plus au-dessus de 30 degrés, là, quand il commence à l'automne, il commence à faire un tout petit peu plus frais, je démarre le bouturage. Donc là, c'est des journées à balader dans le jardin avec mon petit seau. Je fabrique aussi un petit peu d'eau de sol. Je fais tremper du sol découpé dans de l'eau pour produire un peu d'hormones de bouturage naturel. Et donc, je mets ça dans le seau et je vais dans le jardin avec mes petites étiquettes, mon sécateur, et je prélève mes boutures et après, je bouture. Donc ça, c'est amusant parfois, parce que je suis contente d'avoir l'électricité au jardin, parce que certaines fois où je n'ai pas bien calé, ben, j'ai trop ramassé de boutures et des fois je finis à la nuit, donc je me mets sous la lampe et voilà, je finis ce que j'ai prélevé. Donc ça, c'est une partie de l'automne. À ce moment-là, quand les boutures sont finies, ben j'interviens sur tout ce qui est amender les rosiers et déjà commencer à désherber le pied, à faire un bon amendement pour le début de la saison d'après. Puis voilà, donc ça c'est l'hiver. Après l'hiver, il y a un peu de taille des arbres. Et puis après, au printemps, alors là, une fois qu'est passé le mois de février, on court partout. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... j'interviens sur les maladies cryptogamiques avec des décoctions de prêles que je fais et aussi des petits mélanges d'huile essentielle. Donc, il faut pulvériser ça sur les plantes. Donc, ça, voilà, il y a ça à faire. Ensuite, il y a à vérifier qu'il n'y ait pas de maladie qui s'installe. Donc... il y a des passages très fréquents sur l'ensemble des rosiers pour voir que tout va bien. Il y a encore des fertilisations que je fais fin mars, fin mai, fin juin. Les pots en pépinière qui sont également à fertiliser, un peu nettoyer, et le démarrage de l'arrosage. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je ne fais pas de taille, parce qu'en fait, comme j'utilise des boutures, je taille tout le monde au moment où je prélève les boutures. Donc, ça, après, au printemps, il peut y avoir un peu de suppression de bois mort, de choses comme ça. Mais en fait, voilà, moi, tous mes rosiers sont taillés tout le temps, tous à l'automne.
C'est quand même beaucoup de boulot.
Oui.
C'est quand même beaucoup de travail. Hein.
Et c'est beaucoup de travail manuel, t'es tout le temps dehors et tout. Du coup, ça nous amène à notre dernière question. On bosse sur les métiers manuels, on bosse toujours avec nos mains. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu voudrais dire à tes mains.
Je voudrais les remercier. En fait, je pense que personne chez moi aurait parié que j'ai un jour un métier manuel. Parce que moi, j'ai une formation, hein, du coup... scientifique, où je passais beaucoup de temps dans les livres. Après, j'ai une activité aussi de conteuse où je passais encore beaucoup de temps dans les livres, et du coup mes mains n'ont pas beaucoup fonctionné. Aujourd'hui, je suis super fière parce que quand je regarde ma main droite et ma main gauche, on voit que je travaille beaucoup avec ma main droite parce que mes doigts sont plus gros. Ça a changé la morphologie de mes mains. Et donc, juste, ben, je voudrais les remercier pour qu'elles continuent à me permettre de m'occuper des plantes et de faire toutes ces mille activités avec que j'aime bien faire.
Ben c'est merci parfait, beaucoup. C'est joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Sylvie. Si tu as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains podcasts. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Cet épisode a été financé par Marie-Claire et Odile. On a une pensée toute particulière pour vous deux et on espère apporter un joli petit rosier à Vence prochainement. Dans le prochain épisode, on reste dans le Vaucluse à la rencontre de Marion qui élève des escargots et des poules. Tiens-toi prêt et à bientôt.